Benoît Ludgen, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes eurodéputé belge du Parti Populaire Européen. Vous demandez donc de modifier la législation européenne pour favoriser les circuits courts et une préférence européenne locale dans les repas collectifs, par exemple dans les cantines scolaires ou encore dans les hôpitaux. Donc peut-être pour commencer, est-ce qu'une proposition législative a déjà été lancée par la Commission européenne à ce propos ?
Non, pas encore.
D'accord.
En fait, ça doit être décidé par... C'est la Commission européenne qui devrait le proposer. C'est l'exception agricole, hein, donc qui a été défendue par Chirac chez vous en France en son temps, qui a été reprise par Attal. Mais l'exception agricole, elle doit aussi se retrouver dans les marchés publics. Et donc, notamment, ça existe pour la culture, par exemple. La culture, vous n'êtes pas obligé de passer un marché public. Vous pouvez dire, OK, je veux telle œuvre d'art, je veux tel chanteur dans un marché. Je ne dois pas faire un marché en tant que tel. Pour sortir, en fait, l'alimentation des marchés publics, l'alimentation collective, hein, dans les cantines scolaires, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, etc., on devrait pouvoir faire la même chose en disant, oui, OK, on prend le meilleur prix, mais dans un rayon de X kilomètres autour de la zone concernée pour pouvoir avoir la garantie que c'est les agriculteurs de la zone qui approvisionneront cette école-là, cet hôpital ou encore cet EHPAD. Ce qu'on souhaite, c'est que le 26 février, qu'au Conseil des ministres de l'Agriculture, ils puissent au moins décider de cela et proposer cela à la Commission pour que les lignes bougent au niveau des marchés publics qui concernent l'alimentation collective.
Actuellement, quelles sont les règles qui encadrent la restauration collective ? Où est-ce que se place l'Union européenne dans ce cadre réglementaire ?
En fait, les règles, elles sont les mêmes. Donc, pour un marché qui concerne l'alimentation dans les écoles, dans les hôpitaux, donc qui dépendent des pouvoirs publics en tant que tel, l'alimentation, elle est considérée comme si vous achetiez des meubles, un téléphone ou n'importe quoi. Ça veut dire que c'est le prix et uniquement le prix qui l'emporte. Ça, c'est une première chose. Et en fonction aussi des volumes, vous êtes obligé de faire un appel d'offres très rapidement, de faire un appel d'offres européen. L'appel d'offres européen, mais par définition, ça veut dire que vous allez aller chercher de la nourriture sans doute moins chère à l'autre bout de l'Europe, voire à l'autre bout du monde par des transferts par de l'importation qui viendrait dans la réalité de ces marchés. Ce qui n'a évidemment aucun sens parce que l'idée, c'est quand même de pouvoir soutenir les agriculteurs de proximité, de recréer un lien entre consommateurs et agriculteurs d'une part, et donc d'imposer ce que j'appelle moi la préférence locale dans un rayon à déterminer de 100, 200 kilomètres autour de la zone. Que tout ce qu'on peut trouver dans cette zone-là, c'est exclusif, ça doit devenir dans cette zone déterminée. Il y a évidemment des aliments qu'on devra aller encore chercher ailleurs parce qu'on ne peut pas les produire dans le territoire, ça me paraît normal. Mais tout ce qu'on peut produire dans le territoire en suffisance et en variété suffisante doit pouvoir connaître cette préférence locale. Ça veut dire que oui, le prix intervient encore, mais il intervient uniquement pour les entreprises agricoles, les exploitations agricoles qui sont dans le rayon déterminé d'une centaine de kilomètres, 200 kilomètres autour de la zone concernée.
Vous, Benoît Ludgen, ce que vous réclamez, c'est encore plus qu'une préférence européenne, hein, c'est une préférence locale pour favoriser les circuits courts, c'est ça ?
Bien sûr, si on veut à la fois, si on veut défendre réellement les circuits courts, le levier en tant que tel de la cuisine collective, des écoles, des EHPAD, des hôpitaux, si je prends ces exemples-là, qui sont des exemples publics, hein, il y a des hôpitaux publics, il y a aussi de l'éducation publique, mais pour y arriver, on doit effectivement apporter la préférence locale, c'est-à-dire c'est une obligation et c'est une imposition dans un rayon, par exemple, de 200 km autour de ces cantines concernées qu'on va s'approvisionner en viande, en légumes, en tout ce qu'il faut pour apporter un repas de qualité aux élèves, aux personnes âgées ou aux patients pour les hôpitaux. Pour y parvenir, il faut casser la réalité des marchés publics dans ce qui est imposé au niveau européen, c'est-à-dire qu'on doit, à partir d'un certain volume, on va devoir s'adresser à des appels d'offres européens. Ces appels d'offres européens, par définition, ça veut dire que, oui, l'alimentation, elle va venir de très très loin, même parfois de Pologne ou d'ailleurs, ou pire, de passer, en fait, par des intermédiaires qui vont vous proposer de la nourriture qui sera absolument même pas européenne, qui viendra d'Ukraine, qui viendra de Nouvelle-Zélande, qui viendra du Canada ou d'ailleurs. Donc ça n'a vraiment aucun sens. L'autre élément, évidemment, qui est intéressant dans la proposition, je vais prendre un exemple très concret pour l'illustrer. Dans ma zone, c'est l'Ardenne belge. On s'est associé avec différentes municipalités pour justement produire environ 1 000 000 de repas par jour pour nourrir donc notamment les élèves, mais aussi les maisons de repos et les hôpitaux. L'avantage que cela présente, si on pouvait avoir cette préférence locale, c'est que des agriculteurs ou des maraîchers, par exemple, peuvent se dire, OK, j'ai la garantie pendant une période dans le contrat de 5 ans d'avoir une possibilité de marcher et d'écouler ma marchandise pendant 5 ans à un juste prix rémunérateur pour moi. Et je peux aussi donc développer des activités, notamment de maraîchage, pour répondre aux besoins des écoles, des hôpitaux, des EHPAD de la zone concernée. Très concrètement, aujourd'hui, moi j'ai des maraîchers dans ma zone, mais ils ne sont pas capables de produire suffisamment parce qu'il n'y a pas une demande qui est suffisante. Mais si je leur dis demain, écoutez, voilà, moi j'ai 1000 repas par jour que je produis, ça fait X tonnes sur une année, X tonnes d'oignons, X tonnes de carottes, X tonnes de poireaux, X tonnes de pommes de terre, etc., etc., ils sont capables de les produire. Ce n'est pas un problème, c'est juste de l'anticipation pour eux de pouvoir leur dire à partir de telle date, j'aurai besoin, moi, comme responsable des cantines publiques, on va dire ça comme ça, d'autant de marchandises. Et là, donc, c'est aussi de l'emploi local qui se développe et un lien aussi important entre les consommateurs et les producteurs, qu'ils soient agriculteurs, maraîchers, éleveurs, etc. C'est vraiment de la préférence locale. Je préfère dire préférence locale que nationale parce qu'elle n'a pas beaucoup de sens au niveau nécessairement national non plus.
Mais justement, cette préférence locale imposée, obligatoire pour les marchés publics que vous aimeriez mettre en place au niveau européen, ne va-t-elle pas à l'encontre du droit européen en matière de libre concurrence ou de non-intervention des États?
Si, bien sûr, de libre concurrence par rapport à la réalité des marchés publics tels qu'ils sont développés aujourd'hui. Et donc, on doit considérer... Et c'est la traduction finalement de l'exception agricole. Quand la France, des personnalités françaises comme Chirac, comme Gabriel Attal aujourd'hui, ont parlé ou parlent de l'exception agricole, ça reste de l'incantation si on ne traduit pas l'exception agricole dans toute une série de décisions qu'on doit prendre. Ben oui, il y a l'exception culturelle. L'exception culturelle, moi comme autorité maire de ma ville, je peux acheter une œuvre d'art sans devoir faire un marché public, je peux faire venir un chanteur parce que je veux celui-là et le faire venir sans marché public, sans faire jouer la concurrence quelque part, pour sortir en fait l'alimentation des marchés publics, l'alimentation collective dans les cantines scolaires, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, etc. On devrait pouvoir faire la même chose en disant oui, ok, on prend le meilleur prix, mais dans un rayon de X kilomètres autour de la zone concernée pour pouvoir avoir la garantie que c'est les agriculteurs de la zone qui approvisionneront cette école-là, cet hôpital ou encore cet EHPAD. Ici, ce que je propose, c'est qu'on fasse jouer la concurrence, mais jouer la concurrence dans un rayon délimité de proximité par rapport au consommateur final qui est un élève, un patient ou une personne âgée dans un EHPAD.
Vous dites donc que l'exception culturelle a été acceptée, validée par le droit européen et vous aimeriez faire un cas similaire pour une exception pour les produits alimentaires dans les restaurations collectives.
Exactement, pour l'alimentation dans la restauration collective. C'est un fameux levier. Hein. Donc c'est un levier qui représente au niveau européen près de 80 milliards d'euros par an, c'est pas rien. Si je prends l'exemple de la France en particulier, c'est 3 milliards de repas qui sont servis par an sur le territoire français, dans la cuisine et la restauration collective. Et donc, c'est un levier qui a aussi quand même qui aura des conséquences sur la juste rémunération des agriculteurs et des producteurs. C'est se réapproprier ces territoires au travers de la nourriture et de l'alimentation de proximité. Et c'est offrir aussi, évidemment, des repas de qualité. Et c'est aussi protéger le climat. Donc, c'est à la fois protéger le climat parce que les circuits sont plus courts. C'est protéger la santé des consommateurs parce qu'on s'approvisionne près de chez soi. Et c'est protéger, c'est soutenir largement les producteurs et les agriculteurs. Il y a un marché là qui est gigantesque, qui nous échappe, qui est un marché important de relocalisation quelque part de notre production et de liens réinstaurés entre le territoire et les consommateurs. Je pense que ça porte sens et qu'on ne doit pas simplement considérer la nourriture et l'alimentation comme étant un objet. Non, c'est pas un objet. Elle a une valeur culturelle quelque part, l'alimentation. Et la France est sans doute le plus bel exemple en Europe de par la diversité qui peut exister de territoires, la diversité culturelle et la diversité qui l'accompagne d'alimentation, de qualité, de produits qui sont des fiertés françaises, belges, dans chaque contrée, dans chaque territoire. Donc, ça a du sens aussi sur le plan, je veux dire, symbolique ou même de la définition de ce qu'est la culture. Oui, la nourriture fait partie de nos cultures.
Benoît Ludgen, vous dites que cette volonté que vous avez de relocaliser les échanges et la consommation de produits alimentaires locaux en Europe, est-ce que cela ne va pas à contre-courant de l'orientation de l'Union européenne qui est en ce moment même en train de négocier une nouvelle génération d'accords de libre-échange? On a beaucoup entendu parler de l'accord UE-Mercosur. Ne craignez-vous pas de devoir faire face à beaucoup de résistance de la part des institutions de l'Union européenne?
Il y aura bien sûr de la résistance, hein. On la connaît au niveau européen par finalement une libéralisation qui était de plus en plus forte et une économie de marché débridée, si je puis dire, de cette façon. Je pense qu'il faut réguler les choses. Donc on ne pourra pas rester dans un marché agricole qui sera un marché qui ne sera pas régulé. Deuxième élément, par rapport aux importations et aux exportations, on doit continuer à garder notre souveraineté alimentaire, ça c'est une première chose. Et deux, il est inacceptable d'accepter sur notre territoire européen des produits agricoles qui ne connaissent pas les mêmes normes de qualité en matière environnementale, en matière sociale, en matière sanitaire ou en matière de bien-être animal. Ça n'a aucun sens. C'est mauvais pour le climat, c'est mauvais pour notre santé, c'est mauvais pour la biodiversité dans les pays concernés. C'est même mauvais pour certains agriculteurs dans les pays concernés qui nous importent cette alimentation. Parce que derrière, c'est souvent des grands groupes industriels qui se cachent derrière cette réalité. Donc moi, c'est clair que le Mercosur, c'est non, parce que ça, c'est protéger tout ce que je viens de vous exprimer. On vient de passer au Parlement européen, j'ai voté contre, mais certains ont été assez fous que pour accepter, une majorité, accepter un traité avec la Nouvelle-Zélande, où on va déverser sur l'Union européenne 25 millions de kilos de fromage néo-zélandais, 10 millions de kilos de bœuf chaque année, je vous passe en plus l'agneau en quantité illimitée ou quasiment, des oignons, etc. Bref, des choses qu'on peut produire chez nous sans difficulté. On ne sait pas faire plus loin, hein, c'est 20 000 kilomètres la Nouvelle-Zélande. Donc, et on ne sait pas faire pire, pourquoi? Contrairement à ce que beaucoup ont dit, la Nouvelle-Zélande utilise de l'atrazine. L'atrazine, c'est un herbicide très nocif interdit en Europe depuis plus de 20 ans. Comment voulez-vous expliquer à nos producteurs et à nos agriculteurs qu'ils doivent diminuer encore leur charge en pesticides, en herbicides, et il faut le faire, mais de façon soutenable et en les accompagnant, et que dans le même temps, vous dites, écoutez, non seulement vous devez continuer à le faire, mais par contre, on ouvre nos portes à de la production qui utilise des herbicides qui sont interdits chez nous et pour vous depuis plus de 20 ans. Ça n'a évidemment strictement aucun sens.
Sur cette question des herbicides, justement, avec cette modification de la législation européenne que vous réclamez, vous y voyez un moyen de se rapprocher de la réalisation de la stratégie européenne de la ferme à la fourchette, qui vise, on le rappelle, à transformer le système alimentaire européen vers un modèle plus durable. Pourtant, devant les protestations des agriculteurs un peu partout en Europe, l'UE a décidé de renoncer à un élément central de cette stratégie de la ferme à la fourchette. C'était le plan pour réduire de moitié l'usage des pesticides dans l'UE d'ici à 2030. Comment vous réagissez face à ce revers dans la transition vers une alimentation plus durable en Europe?
Je viens de l'expliquer en partie. On doit faire, c'est pas du « ou », c'est du « et » qu'il faut faire. Donc, on doit diminuer effectivement la réalité de la charge en pesticides. Il faut le faire en la finançant et pas simplement en disant « vous devez réduire », en garantissant toujours notre souveraineté alimentaire au niveau de l'Union européenne et en interdisant l'importation de produits comme ceux-là. Ou sinon, toute la stratégie de la fourche à la fourchette, de la ferme à la fourchette n'a aucun sens. Ma proposition, quand on dit de la fourche à la fourchette, c'est aussi de rapprocher et que la distance entre la fourche de l'agriculteur et la fourchette du consommateur, elle soit la plus courte possible. Et pour qu'elle soit la plus courte possible, utilisons déjà un levier qui dépend directement des pouvoirs publics, du pouvoir politique, c'est la restauration collective publique. Là, on peut agir directement, hein, sans devoir passer. Après, il y a le choix des consommateurs. Mais ça ne sera pas possible d'y arriver autrement. On peut, ou alors, c'est quitter le champ de notre indépendance alimentaire. Attention à la France, et je le dis, c'est un Belge qui vous le dit. L'année dernière, en France, les importations agricoles, alimentaires, ont été plus élevées que vos exportations. C'est la première fois que ça arrive. Donc, on met de côté les vins, les spiritueux, mais la France, qui est la mère nourricière de l'Union européenne, le premier producteur européen dans l'Union européenne, en 2023, vous avez dû importer davantage pour nourrir votre population que vous n'avez exporté, il y a quand même un immense problème. Et si on regarde ça sur le critère environnemental, biodiversité et le critère climat, c'est en plus une grosse bêtise pour le climat et une grosse bêtise pour la biodiversité. Parce que par définition, ce qui est importé chez nous, et singulièrement en France, est de moins bonne qualité environnementale, détruit davantage la biodiversité et détruit davantage le climat. Donc c'est vraiment du perdant, perdant, perdant. Il n'y a aucun critère sur lequel vous mettez à mal votre économie, à mal vos agriculteurs, à mal le climat et à mal la biodiversité si on regarde ça au niveau global et mondial. Il faut quitter le champ, sans mauvais jeu de mots, de la bonne conscience verte. La bonne conscience verte, c'est de se dire, bon, okay, chez nous, on produit avec une qualité encore beaucoup plus durable, on est déjà très fort hein, par rapport au reste du monde, on produit de façon plus durable en Europe qu'ailleurs dans le monde, en France de façon plus durable que dans le reste de l'Europe, en Wallonie, chez moi aussi. Mais si c'est pour produire, mais produire beaucoup moins et d'importer davantage, et qu'en important et en consommant, on détruira davantage la planète, il faudrait m'expliquer en quoi ce serait une bonne chose.
Et pourtant, ce n'est pas ce qui va se passer.
Non.
Puisqu'on observe que l'Europe continue d'autoriser les pesticides et a par exemple réautorisé le glyphosate pour une nouvelle période de 10 ans.
Si on prend cet exemple-là, évidemment, je suis d'accord avec vous, mais si c'est pour qu'on importe, j'ai pris l'exemple de la Nouvelle-Zélande tout à l'heure, à partir du moment où on importe chez nous des produits ou des herbicides interdits depuis plus de 20 ans, ça n'a strictement aucun sens. Moi, je suis pour qu'on quitte le glyphosate. Mais qu'est-ce qui remplace ou vers quoi on veut aller pour continuer à produire en suffisance des pommes de terre, des betteraves, sans devoir les importer et en les important avec l'impact qui sera de toute façon pour le glyphosate utilisé ailleurs de la même façon. Ça n'a strictement aucun sens. On sait très bien que on voit qu'il y a une diminution, et singulièrement en France, de l'utilisation globale des pesticides. Cette diminution, elle doit encore aller de façon plus rapide avec une forme de mécanisation pour remplacer l'utilisation de ces produits. La mécanisation, elle entraîne aussi un gisement d'emploi qui est important. Moi, je souhaite qu'il y ait plus davantage d'emplois, mais que l'emploi soit davantage soutenu aussi au niveau agricole. C'est d'ailleurs pour ça que je propose, notamment, dans le cadre de la politique agricole commune, qui est une aide à l'hectare. Si on veut soutenir les plus petites exploitations agricoles, on doit passer de façon progressive, et je souligne le progressif, d'une aide exclusive à l'hectare à une aide aussi à l'emploi au fil du temps, pour soutenir l'emploi dans le domaine agricole et pas uniquement la réalité de la propriété sur le plan foncier. Il n'y a pas 36 000 solutions. Si on veut garantir notre souveraineté alimentaire, on doit produire et produire en suffisance. Et pour produire en suffisance, il faut effectivement des solutions alternatives aux pesticides pour permettre qu'il y ait encore assez de nourriture pour chacune et pour chacun sur le territoire européen.
Benoît Ludgen, vous déclarez faire cette demande maintenant, car c'est la Belgique qui occupe pour 6 mois la présidence tournante du Conseil de l'UE, institution qui rassemble les 27 États membres de l'Union européenne. En quoi cela pourrait aider votre demande de modifier la législation européenne ?
La Belgique a un rôle important à jouer puisqu'on a la présidence. L'avantage d'avoir la présidence au niveau européen, qui est une présidence tournante, c'est que vous pouvez convoquer des conseils européens et que vous pouvez aussi déposer des points à l'ordre du jour et obliger aussi les différents États membres, les différents pays de l'Union européenne à se positionner. Il y a parfois un jeu d'hypocrisie qui peut exister en disant c'est la faute à Bruxelles, c'est la faute à Bruxelles, c'est la faute à Bruxelles. Je rappelle quand même à tous vos auditeurs que Bruxelles, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est d'abord le Conseil européen, c'est-à-dire les chefs d'État ou les ministres. Il n'y a pas un texte européen de règlement qui passe sans que le Conseil européen, sans que les États membres en tant que tels, les pays, l'aient approuvé. C'est la Commission et c'est le Parlement. On marche sur trois pieds si je puis exprimer les choses de cette façon-là. Mais le fait d'avoir la présidence, ça permet de mettre rapidement l'ensemble des ministres européens de chaque pays face à leurs responsabilités pour éviter qu'ils disent simplement à leurs agriculteurs, à leurs producteurs ou à leurs consommateurs, vous savez, moi je fais tout ce que je peux, mais j'y arrive pas, et bon, voilà, c'est la Commission. Non, non. Si tu fais vraiment tout ce que tu peux, tu vas avoir un ordre du jour avec des propositions de décision qui seront déposées par la Belgique. Tu devras dire oui ou non au Mercosur définitivement. Tu devras dire oui ou non pour modifier les marchés publics pour qu'on fasse en sorte que d'avoir une préférence locale dans les assiettes des enfants, dans les assiettes des aînés, dans les assiettes des patients des hôpitaux. Je pourrais continuer toute une série d'exemples comme cela. Et le dernier élément, et il est inspirant, je pense, au niveau de l'Union européenne, j'en suis même certain, même si c'est une loi imparfaite, la loi Egalim française, elle a du sens. D'arriver à améliorer le juste prix pour le producteur et le juste prix pour le consommateur aussi. On doit pouvoir s'en inspirer au niveau européen pour faire de cette loi, en modifiant d'ailleurs certains éléments du droit européen pour qu'elle soit davantage impactante, contrôlable et sanctionnable.
Et nous resterons attentifs à l'évolution de ce dossier de proposition d'une modification de la législation européenne sur les marchés publics, appelant à créer, je le rappelle, une exception locale agricole, notamment pour la restauration collective. Merci à toutes et à tous pour votre attention.